Session Amitié et Contemplation, Père Marie-Dominique Philippe, le 30 juin 1997, troisième conférence.
Je vous disais, en terminant, que un aspect qui, je crois, est très important pour nous, je me suis posé la question. s'engage vers un point de vue éthique de l'immanence de l'acte moral. Et ce que je crois être Descartes. Et il y a là quelque chose de très... Le premier point de départ pour Occam. J'écris Occam parce que vous ne devez pas l'avoir vu beaucoup. Avoir lu beaucoup Occam. Descartes, vous le savez, c'est pas la peine. C'est ce que je pense. Quand on dit que la négation est première, dans la négation, vous exaltez le pouvoir de l'intelligence. Je suis capable de nier. Quand j'affirme, je montre l'indépendance à l'égard d'un objet. Et ayant dit la négation première, la négation n'a plus. Rationnel. Et ce qui est intéressant à voir, repose sur Dieu, la négation est plus certaine que l'affirmation. Je suis d'une certitude absolue de dire qu'en Dieu, il n'y a pas de matière. Mais dire quelle est la contemplation de Dieu d'une façon positive, j'ai une connaissance analogique, on verra ce que ça veut dire, qui est moins affirmative que la négation. Et c'est pour ça que la négation apporte une certitude plus grande, de sorte que à partir de Occam, on ne recherche plus la vérité. La planète. Et je crois que ce sera par haine qu'on arrivera à cela, sans nous demander notre avis. La haine est un levier terrible, super subjectif, parce qu'il n'y a plus rien. C'est une néantisation. C'est parce que la haine est première. S'il n'y avait pas la haine première, il n'y aurait pas de néantisation. Je suis capable de nier d'une façon telle que je néantise. Et la vieille expression, après moi le déluge, hein, on voit ce que ça veut dire. Hein. De ce qui se passe après. Moi, je dis ça. C'est pour donner à ma parole et à mon jugement une valeur absolue. Je n'insiste pas plus, mais je tenais à le dire. Alors, vous voyez, que je reprends, et je n'hésite pas de le dire, une philosophie. Aristote, je l'aime beaucoup. Je prendrai la parole d'Aristote. Pour être vraiment aristotélicien, il faut comprendre cette parole magnifique d'Aristote. Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. Aristote et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. Autrement, je ne serais pas philosophe. C'est très fort, ça, et c'est très beau. Et Aristote a dit ça, non pas quand il a fait la métaphysique, mais quand il a fait l'éthique. L'éthique, la philosophie morale. La recherche de ce que c'est l'homme dans sa responsabilité. Le philosophe ne s'appuie pas sur l'opinion des autres philosophes, ne s'appuie pas sur ce que les autres philosophes ont dit. Il s'en sert, mais il revient toujours à l'expérience. S'appuyer sur le dire des autres, j'allais dire, c'est parce que notre intelligence n'est pas adulte, parce que notre intelligence n'arrive pas encore à être complètement développée elle-même. C'est tout à fait normal au début. Au début, il faut avoir des maîtres, et des maîtres qui nous conduisent à la vérité. À la vérité. Autrement, on ne cherche plus en premier lieu la vérité. Quand Aristote dit certaines choses que je ne peux pas affirmer aujourd'hui, je passe mon chemin, je n'en pleure pas, je me dis là, il est de son temps. Et moi, je suis du mien, parce que tout philosophe est de son temps. Bien qu'il vit dans un contexte donné, particulier. Mon contexte, comprenez bien ce que je veux dire en tant que philosophe, mon contexte le plus immédiat, c'est que je suis chrétien. Pour moi, ma philosophie, c'est mon contexte. La contemplation et l'amitié se rejoignent. C'est ça qui est admirable. En tant que chrétien, je cherche à avoir la plus grande amitié possible avec Jésus. En tant que chrétien, je sais que Jésus m'apprend à contempler. Ma foi chrétienne, si je la vis vraiment, si ce n'est pas pour moi une répétition, mais une vie d'amour et de contemplation. Ma vie chrétienne, c'est le contexte dans lequel je vis. Pour le philosophe, c'est sûr, je distingue en moi cogito est premier. C'est ce que moi je pense. Je cogite. Je me souviens d'avoir rencontré dans des circonstances spéciales, il s'agissait de prémices d'un ami qui avait été ordonné. J'étais à Fribourg. J'étais invité, j'étais très heureux d'assister à sa première messe. Et dans le petit village dans lequel il était, c'était la grande fête du village. Et on me dit, après le repas, la vie de Merleau-Ponty est là. Je dis, elle a quel âge? Ou elle a 15 ans, 16 ans. Je dis, ça m'intéresserait beaucoup d'entendre la vie de Merleau-Ponty me parler de son père. Parce que je lisais Merleau-Ponty, ça m'intéressait. C'était un philosophe qui m'intéressait beaucoup. Alors je vais, on me la présente, très libre et gentille. Alors elle me dit, ah, c'est pas drôle d'avoir un père philosophe. Alors je dis, mais pourquoi? Au contraire, ça doit être très intéressant. Parce qu'il est intelligent, votre père. Ah non, c'est pas drôle du tout. Ah, je dis, pourquoi? Ah, parce que il réfléchit tout le temps. Il pense tout le temps. Quand je lui dis, j'ai envie de te parler. Ah, je dois faire un article. C'est pas drôle du tout. Alors, la conversation a commencé comme ça, vous voyez. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir le cogito de Merleau-Ponty. Je cogite. C'est vrai que quand on demeure dans sa réflexion propre, on s'enferme dans sa réflexion propre. C'est le terrible danger du subjectivisme. On s'enferme en soi. Tandis que si la philosophie commence par l'expérience, l'expérience, elle regarde une réalité que j'expérimente, qui n'est pas premièrement moi, qui est l'affirmation « ceci existe ». Parce que c'est les réalités qui existent qui m'intéressent. Or, ce jugement d'existence, qui est très simple, c'est le plus simple des jugements, ceci est, qui sépare nettement une réalité possible. Quand je parle à un architecte, il me montre ses plans. Vous voyez les plans de cette salle. L'intelligence de la réalité qui existait et la possibilité d'ajouter ces sans détruire le reste. Je voyais bien la différence entre ceci et il faut l'utiliser. Le reste, on va l'inventer. C'est possible, on peut faire ça. Vous voyez tout de suite la distinction capitale entre ceci existe et le possible. Ça n'a l'air de rien, mais c'est capital. Quand vous faites cette distinction, vous quittez l'imaginaire. Et vous savez très bien que la plus grande difficulté pour nous de faire de la philosophie, c'est que le monde d'aujourd'hui vit dans l'imaginaire. Et je ne fais plus de distinction entre le possible et ce qui est. différence entre le rêve, le cauchemar. Ce soir, on fait des cauchemars métaphysiques. Vous vous réveillez, ah non, c'est un rêve. Or, la philosophie, c'est ce qui est. En face du cauchemar, en face du rêve, vous existez. Ah, je respire. Tout ça, c'est un rêve. On a tous fait des cauchemars. Quand on était jeune. Et puis, normalement, après, plus on est proche de ce qui est, de ce qui existe, les cauchemars n'ont plus rien à faire. Je suis devant les choses qui existent. Les cauchemars, c'est l'énorme nuage noir qui avance. Et les gros longs, gros, qui vous tombent sur la tête.
Normalement, quand on cogite, on pense
pense à quelqu'un, on pense à quelque chose. Je n'ai jamais pensé à rien. Quand j'étais jeune, qu'on me voyait complètement distrait dans un rêve. Et tu penses à quoi ? Alors, comme j'avais une tante qui était missionnaire en Chine, n'importe quel objet. C'est le sujet qui domine. C'est le sujet qui existe. Et mon imagination part dans tous les sens. Donc la grande distinction, ceci est, ceci n'est pas. C'est le possible. Disparaît. C'est extraordinaire de voir que cette petite déviation dans l'ordre entre l'affirmation et la négation m'empêche de rejoindre le réel, l'expérience qui me fait toucher le réel et l'expérience du toucher, ce que Descartes n'a pas vu, n'a pris que la vue. Alors là, il ne savait plus. Parce que la vue, on peut très bien imaginer le toucher. Ceci est. Alors vous comprenez, la philosophie de la réalité, elle commence par mes expériences. Quelles sont mes premières expériences ? Oh, c'est évidemment l'expérience de la nourriture. Le gosse, il est intéressé par la nourriture. Sauf quand il commence à penser vraiment, et peut-être même à rêver. Une mère de famille m'a raconté, quand je parlais justement de l'expérience, et l'expérience de la nourriture, elle disait que quand son petit gosse avait 4 ans, sa mère vient lui servir sa soupe. Et puis, il est comme ça. Alors sa mère lui dit, à quoi tu penses ? Je pense. Il prend ta soupe. Elle va être froide. Puis, impossible. Il continue de penser. Puis tout d'un coup, il se met à manger, à boire sa soupe. À la prendre. Alors sa mère dit, qu'est-ce que... Alors, là, tu sais, tu as pensé à quoi ? Je pensais à l'éternité. Et poser la question, qu'est-ce que c'est que l'éternité, maman ? Alors sa mère lui a répondu, il vaut mieux prendre ta soupe avant. Vous voyez, cette chose très importante de l'expérience va naître l'interrogation. Et c'est vrai. Mais l'interrogation, très souvent, on l'éteint. Ce petit gosse posé, qu'est-ce que c'est que l'éternité ? alors qu'est-ce que c'est? TGV. Voiture pour l'enfant. TGV, c'est extraordinaire. Ça fait rêver, TGV. Et qu'est-ce que c'est que TGV, maman? Ah, tu verras. Non, mais qu'est-ce que c'est? Puis insister. La mère n'expliquait pas. On éteint. Quand un enfant interroge, il faut lui répondre. On n'a pas le droit de pas lui répondre. Parce que l'intelligence exprime sa vitalité par l'interrogation. Et en interrogeant, il avance, il analyse. C'est celui qui interroge, qui analyse. Et je reste vivant quant à mon intelligence, quand j'expérimente, quand j'interroge et que j'analyse. Pour aller, vous voyez, c'est la même chose pour le savant. Expérimente l'expérimentation qui n'est plus le jugement d'expérience qui est autre chose parce que j'ai fabriqué le milieu pour expérimenter et à partir de là j'interroge en analysant, en cherchant et très vite le philosophe s'aperçoit que la réalité la plus intéressante que j'expérimente, c'est l'homme et c'est moi. C'est vrai, je suis un champ d'expérience pour moi-même étonnant. Je suis un lieu par excellence d'expérience. Et c'est pour cela que la philosophie réaliste a commencé par se poser la question qu'est-ce que c'est que le travail? Et après, elle n'a plus beaucoup posé la question qu'est-ce que le travail? Hésiode, Marx, lui a posé la question qu'est-ce que c'est que le travail? Est-ce que le travail ennoblit ou est-ce que le travail rend esclave? Voilà l'interrogation. Quel travail ennoblit l'homme? Quel travail vous met dans la servitude? C'est quand même important, ça. C'est des questions toutes simples de l'expérience. Quelle est de votre vie? C'est le travail. Je crois. Pour chacun d'entre nous. Sauf si on était paresseux et qu'on n'a jamais travaillé. Ça arrive, hein, ça arrive. C'est quand même des exceptions. Normalement, la quantité d'expériences que j'ai faites, la plus nombreuse, la plus étendue, c'est le travail. On a travaillé comme des brutes pour passer des examens. Les examens, c'était des épreuves de boulot de travail. Au point de vue intellectuel, au point de vue manuel aussi. On passe d'un travail à l'autre. Je me souviens, quand j'étais au début de ma vie apostolique, traîne toute la semaine. Est-ce qu'on pourrait pas parler de la prière et puis prier ensemble? Parce qu'on ne sait pas prier. Vous, vous devez être quand même un spécialiste de la prière. Alors quand on va pas et qu'on ne sait plus travailler sur une chose, on va trouver un spécialiste. Je dis, oh, très bien. On va parler de la prière et on priera ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Là, c'est vrai. Vous m'auriez demandé de dévisser les choses avec vous. Je vous aurais demandé d'être le premier, puis j'aurais suivi par derrière. Et oui, oui. Mais ça, on sait. Pas la peine de se rencontrer le dimanche pour ça. Tandis qu'ici, on veut consacrer cette journée à la prière. On ne sait pas prier, nous. On ne sait pas. On sait poulonner, mais pas prier. Alors, très bien. Il y a le repas ensemble, très sympathique. Arrive le doyen de Villeneuve-Saint-Georges, un homme trapu. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On a prié. Oh, c'est une découverte. On a prié. Alors, ce bon doyen. Oh, mais non. Il faut poulonner. Ah, oh, monsieur le curé. On sait ce que c'est. Mieux que vous. Pour prier. Là, il y a eu une discussion. Moi, je me cachais. J'étais derrière ces ouvriers pleins d'ardeur. Que je savais que, si on se mettait sur ce terrain-là, j'écraserais monsieur le curé. Hein. Monsieur le curé, au bout de 5 minutes, n'a plus rien dit du tout. Parce qu'il se trouvait devant des maîtres boulonneurs. D'exemple, je pourrais continuer. Le philosophe essaie de trouver quelle est l'expérience type de l'homme. Le travail, la prière, la philosophie.